Théologie biblique par le Père Philippe Saint-Joseph le 15 janvier 85.
Nous avons vu la dernière fois ce grand événement qui va jouer un rôle très important dans toute l'histoire du peuple d'Israël, dans toute la mémoire religieuse du peuple d'Israël. C'est sûrement un des événements les plus importants qui a marqué. Vous voyez, quand on regarde le chapitre 6 dans Saint Jean, on voit que tout de suite, il y a la réminiscence de la manne. L'Eucharistie est liée à la manne, et la manne est ordonnée à l'Eucharistie. Il y a donc un leitmotiv fondamentale de Moïse à Jésus à la scène. Et ceci, c'est à l'intérieur même du texte de l'Écriture. C'est ça la mémoire, quand saint Augustin parle de la mémoire. Hein. C'est là qu'on doit la comprendre, la mémoire religieuse, les gestes de Dieu qui sont inscrits dans le cœur de l'homme. C'est un peu la tradition. Mais dans l'Ancien Testament, la tradition n'est pas du tout la même que dans le Nouveau Testament. Ce serait du reste intéressant de voir la différence, hein, du mystère de la mémoire dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Alors là, il y a donc un fait extrêmement important pour nous à bien saisir. Voyez le point de départ. Moïse dit à Aaron, « Dis à toute la communauté des fils d'Israël, approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos murmures. » Voici verset 9. C'est très curieux de voir que, de fait, Yahvé a entendu les murmures. Les murmures, normalement, c'est pas très catholique. Hein. C'est quelque chose qui est l'acidité de notre cœur, que nous mettons dans le cœur d'un autre qui connaît les mêmes acidités. C'est du même ordre, au plan spirituel. Non ? On murmure. On dit ses mécontentements. On ne les dit pas à l'autorité. On les dit à quelqu'un qui lui-même connaît quelque chose de semblable. C'est une intersubjectivité par le bas, qui à la place de nous élever, nous abaisse. C'est pour ça que saint Benoît est si farouche contre les murmures. Ça, c'est bon de voir ça dans la règle de saint Benoît. Que les murmures, c'est ce qui détruit l'unité d'une communauté. Parce que ça alourdit. Une communauté est une quand elle tend vers une unique fin. Le murmure, c'est la replongée ou le retournement sur notre conditionnement. Nous murmurons parce que nous sommes incapables d'atteindre la finalité. Et que nous sommes plonger sur notre conditionnement et que notre conditionnement est blessé d'une manière ou d'une autre. On n'a pas fait assez attention à ce qu'on était. On n'a pas fait assez attention à nos opinions géniales. On n'a pas fait assez attention à telle ou telle chose comme ça. Alors on est blessé. Mais on a les ailes humidifiées, repliées sur nous et on gèle. Alors le murmure, c'est donc ce repliement sur soi qui fait qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus voler. On est dans l'impossibilité de s'élancer. Et on communique à l'autre la même chose et on s'alourdit. C'est la communauté vers le bas. en dessous du niveau de la mer. Hein. Alors que édifier, faut s'édifier mutuellement, c'est au contraire communiquer les élans de l'Esprit Saint. Alors on s'édifie. C'est du côté de la finalité. Je crois que c'est très important pour nous de comprendre cela. C'est même capital. Hein. Parce que dès qu'on murmure, on est plus heureux. Les gens qui murmurent sont jamais heureux. Ça. Au contraire, quand on s'édifie et qu'on est témoin de ce qu'il y a de positif, parce que le Saint-Esprit communique toujours le point de vue positif, il ne communique jamais l'aspect négatif. Ça, c'est les hommes. Et c'est le démon par derrière qui communique l'aspect négatif. Alors quand on commence à communiquer les aspects négatifs et qu'on ne voit plus l'aspect positif, qu'on est plus sensibilisé à l'aspect positif et qu'on est sensibilisé en premier lieu à l'aspect négatif et que à plusieurs on voit cet aspect négatif, alors on tombe dans le murmure et on est malheureux. On est malheureux. Parce qu'on n'arrive plus à être au niveau de ceux qui volent, de ceux qui marchent normalement sous le souffle de l'Esprit Saint et qui sont dans l'unité. On se met soi-même en dehors de l'unité. Une unité d'une communauté, il s'agit d'une communauté, là, c'est pour ça que je souligne, parce que c'est les premiers murmures. Hein. La théologie du murmure repose sur le désert. Comme fond. La théologie du murmure, c'est avec Moïse qu'on doit avoir la théologie du murmure. Relevez, si vous voulez, ce serait très intéressant à faire. Relevez, chaque fois on parle du murmure, quand on est au désert. Hein, je suis persuadé que c'est là où l'intensité du murmure est la plus grande. Il y a des creux, comme ça. Le murmure est très intense. Et c'est avec Moïse que ça existe. Avec le médiateur. C'est toujours en face d'un médiateur qu'on murmure. Hein. En face de Dieu, c'est plus difficile. Vous n'allez pas commencer votre oraison en disant « Seigneur, vous êtes vraiment... Hein. » Vous voyez bien, c'est impossible. Non, ça ne va pas du tout. Ça. C'est pas en face de Dieu qu'on murmure. C'est en face des médiateurs. En face de ceux qui sont les intermédiaires. Alors on murmure. Mais on murmure avant tout vis-à-vis d'autres, c'est-à-dire c'est le médiateur qui a été cause du murmure, et on communique le murmure avec ceux qui subissent le même, du moins qu'on croit subir la même chose que nous. Alors on fait une communauté par le bas. Une communauté est une par la finalité, une communauté se divise par le murmure. Et le murmure est presque toujours base de jalousie. Il y a un lien entre murmure et jalousie et division d'une communauté. C'est très curieux, ça. Et c'est important d'être lucide dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine dans lequel on ne veut pas être lucide. On ne veut pas être lucide, parce que c'est pas très beau. Ça manque de grandeur d'âme, quoi. C'est vrai, il faut bien se le dire, ça manque de grandeur d'âme. On murmure quand on est de mauvaise humeur, quand on a mal à l'estomac, quand on a... Alors on se met à murmurer. Mais normalement, quand on est saisi par l'Esprit Saint, vous ne murmurez jamais. Jamais. Alors, on voit le murmure du peuple d'Israël. Un murmure qui n'est pas très élevé. Mais c'est le murmure le plus fondamental par rapport à la nourriture. C'est le murmure le plus fondamental. Vraiment, ce qu'on nous sert à midi, ce qu'on nous sert le soir, non, vraiment, c'est pas digne de nous. Alors, ou quand on commence à serrer la ceinture parce qu'il n'y a plus rien à manger, alors on commence à murmurer. C'est le murmure le plus bas, ça. Après, il y a d'autres murmures au niveau de la charité fraternelle, au niveau des études, au niveau... un tas de choses comme ça. Allez, on murmure. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Dieu répond aux murmures. Pour moi, c'est un des aspects les plus étonnants de la miséricorde de Dieu. Parce qu'au point de vue humain, vous ne répondez pas au murmure. Vous avez cette attitude très simple. Vous murmurez, mais vous n'avez qu'à partir. Personne ne vous retient. C'est très vrai. Vous êtes entré librement. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous perdez du temps. On perd du temps à murmurer. Ça, c'est le point de vue de la justice. Et ça, c'est humain. Et c'est normal au point de vue humain. Oui. Quand on est responsable d'une communauté, la justice joue. Hein? Je parle de Moïse, de ce médiateur. La justice joue. On ne peut faire la miséricorde qu'aux individus. On ne fait jamais la miséricorde à une communauté. N'oubliez jamais ça. Faire la miséricorde à une communauté, c'est impossible. Vous savez bien, c'est le petit défaut de l'abbé Pierre. Je dis bien, c'est le petit défaut de l'abbé Pierre, parce qu'il a de grandes qualités. Il a un petit défaut, parce qu'il lui manque un tout petit peu de théologie et de philosophie. Alors il dit ouvertement qu'il faudrait, je l'ai entendu, donc c'est pas passé par 36, j'ai voulu entendre certains, quand il passait à Fribourg, j'ai voulu entendre, ça m'a beaucoup intéressé du reste. Alors il dit, quand on fait une loi, on devrait regarder le plus misérable et faire la loi en fonction du plus misérable. Alors vous voyez comme ça irait bien dans une communauté. Celui qui a le plus de peine de se lever le matin. Donc faites le règlement en fonction de celui qui a le plus de peine de se lever le matin. Enfin, nous nous levons tous les matins à 10h du matin. Vous voyez bien, je prends cet exemple-là parce qu'il est visible, c'est évident, il est très visible. Et on ne peut pas faire une loi ou un règlement en fonction du plus misérable. Le plus misérable dans cet ordre-là, c'est-à-dire celui qui a le plus besoin de dormir. On ne peut pas. On fait des exceptions. Mais il y a une loi pour tous. Et l'abbé Pierre dit, les lois devraient être en fonction du plus misérable. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de loi, parce qu'il n'y a plus de justice. La loi regarde la justice. Et la loi, elle est universelle, elle regarde la justice. Tandis que la miséricorde, elle regarde les individus. C'est chaque individu particulier qu'on enveloppe de miséricorde. Je dis ça, c'est parce que je crois que c'est très important, vous voyez, de bien comprendre. Les constitutions, ce sont nos lois. Et donc ça regarde le point de vue universel. Et puis, il y a toujours le point de vue personnel, individuel de chacun. Et chacun, lui, est dépendant directement de la miséricorde de Dieu. Dieu qui fait toujours miséricorde. C'est le propre de Dieu de toujours faire miséricorde. Nous ne pouvons pas, nous, toujours faire miséricorde parce que nous appartenons à une communauté. Dès qu'on appartient à une communauté, on ne peut pas faire toujours miséricorde. Tandis qu'individuellement, on peut toujours faire miséricorde. Alors, toutes nos relations personnelles doivent être miséricordieuses. Mais dès qu'on agit en tant que partie d'une communauté, on doit faire respecter la loi. On doit respecter la justice et l'ordre. C'est pas commode, hein? Il peut y avoir des conflits là, entre les deux. Et quelquefois, on ne voit pas toujours jusqu'où doit aller la miséricorde. Jusqu'où doit aller la justice? La justice, c'est que, oui, chacun fait un effort pour appliquer pleinement et totalement l'exigence commune. Et puis la miséricorde, c'est que, en face de telle ou telle misère, Dieu nous dit d'agir de telle manière, qui est une manière unique, qui est un privilège, le privilège du mendiant. Le privilège du pauvre qui n'arrive pas. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui fait toujours miséricorde. Parce que Dieu fait miséricorde à tous les individus, chacun en particulier. Et faisant miséricorde à tous les individus, d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière, il fait miséricorde à la communauté. Mais ce n'est pas vrai. On ne fait pas miséricorde à une communauté. On peut faire miséricorde à tous les individus d'une communauté. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu fait luire le soleil sur les justes et les injustes, sur les bons et les méchants. Alors ça, je crois que c'est très important pour nous. Moïse dit à Aaron, dit à toute la communauté des fils d'Israël, « Approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos murmures. » Si Dieu répond aux murmures, Dieu agit par pure miséricorde. Et le fruit de cette action de pure miséricorde, c'est la manne. Vous voyez, c'est pour essayer de comprendre ce que c'est que la manne. C'est donné à partir des murmures. C'est quand même extraordinaire, ça. Que Dieu donne gratuitement la manne à partir des murmures. Cette miséricorde, elle est donnée selon un certain ordre de sagesse. Il y a des miséricordes qui sont données gratuitement à chacun. Mais quand la miséricorde est donnée à une communauté, c'est-à-dire à chacun des membres d'une communauté, pour parler avec précision, quand la miséricorde est donnée à chacun des membres de la communauté, cette miséricorde doit impliquer un certain ordre. Et cette miséricorde en plus, c'est une pédagogie de Dieu. C'est Dieu qui éduque son peuple à partir des murmures. C'est pas commode de supprimer les murmures. Je crois que c'est la chose la plus difficile, de supprimer les murmures. Parce que c'était très difficile. Mais Dieu fait une pédagogie miséricordieuse pour chacun, pour enlever les murmures. C'est-à-dire enlever cette attitude de repliement et mettre dans une attitude d'ouverture, d'action de grâce, de remerciement, qui est juste opposé de l'attitude du murmure. Et c'est pour ça que nous voyons à la fois cette gratuité merveilleuse de la manne, tous les matins. Et c'est donné gratuitement. Et en même temps, cet ordre qui est impliqué dedans. Cette discrétion qui est impliquée dans ce don et dans cette gratuité. Vous n'en prendrez que la valeur d'un homère. Uniquement le récipient convenu pour cela, selon ce qui vous est nécessaire, et pas plus. Ça pourrait sembler aller contre la gratuité et contre la miséricorde, ça, c'est de l'ordre de la justice. C'est pour éduquer. Vous n'en prendrez jamais pour le lendemain, sauf le jour du sabbat. Il faut éduquer le point de vue du sabbat. Vous avez donc à l'intérieur de cette miséricorde qui va si loin, un ordre de sagesse. Et vous avez l'ordre de sagesse qui apparaît à l'intérieur de la miséricorde pour éduquer le peuple d'Israël, le redresser. Parce que quand vous répondez aux murmures par une pure miséricorde, vous risquez de faire des enfants gâtés. Parce qu'ils ont compris. Alors on sait très bien que pour avoir un morceau de sucre, il suffit de faire tel ou tel geste. Il suffit de taper du pied. Alors à ce moment-là, on a le morceau de sucre. Alors on comprend. Il y a une espèce de, vous savez, de... un ordre psychologique de réflexe conditionné. Je veux ça, très bien, je fais ça. Il y a un lien. Alors on le comprend. Et là, on devient des enfants gâtés. Dieu ne veut pas que son peuple soit des enfants gâtés. Et parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit des enfants gâtés, il éduque par un ordre de sagesse. Et il y a un ordre de sagesse qui est impliqué dedans. Cet ordre de sagesse, c'est justement de respecter le sabbat. C'est justement d'éduquer, de l'éducation la plus fondamentale qui soit, c'est la nourriture. On éduque des tout petits enfants par la nourriture. Normalement, quand l'homme est arrivé à un certain âge, on ne l'éduque plus par la nourriture parce qu'il est capable de son auto-éducation. Mais des novices, ils reviennent comme des enfants et alors on continue de les éduquer par la nourriture. C'est ce que fait le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? C'est évident. Table commune. C'est une rééducation. Table commune pour la manne. Elle était vaste, cette table commune. Ils allaient tous avec eux. Ça devait être assez joli de voir ça, hein, la procession du matin. Mais c'est pas de voir tous aller se précipiter pour remplir le récipient de ce qui était nécessaire pour la journée. Table commune. Une éducation, c'est rude. C'est le Saint-Esprit qui nous éduque de cette manière-là. Et en même temps, chacun selon ses capacités, selon ses nécessités. Et ce qui est aussi très particulier, c'est que la manne est donnée directement par Dieu, sans aucun intermédiaire, pour que nous comprenions mieux ce geste du Père qui donne le pain. C'est le Père qui donne la manne. Voyez encore que la manne, ce nom de manne, qu'est-ce que cela ? Va éduquer dans le peuple d'Israël l'étonnement et l'admiration en face de l'œuvre de Dieu. C'est la première éducation de Dieu, ou plus exactement, le premier moment de la rééducation. Parce que la première éducation de Dieu, c'est pas ça. Ça a été proprement le point de vue du sacrifice. La première éducation de Dieu, ça a été le point de vue de l'obéissance par la foi et le sacrifice. Et la rééducation de Dieu qui se fait au désert, se fait d'abord par cet étonnement. Éveiller l'admiration. Manne où ? Qu'est-ce que cela ? Car il ne savait pas ce que c'était. Et alors Moïse explique. Donc vous voyez tout ce qui est impliqué dans cette richesse, cette pédagogie divine. La gratuité et l'ordre de sagesse. Du côté de Dieu et du côté de l'homme, maintenir l'état d'étonnement et d'admiration. Dieu ne veut pas faire de nous des êtres blasés. C'est anti-contemplatif. Il y a deux choses à corriger en nous. La capacité de murmure et cette attitude de celui qui n'a plus aucune capacité d'étonnement. Il faut maintenir en nous la faculté d'étonnement en vue de la contemplation. Je crois que quelqu'un qui est complètement blasé n'entrera jamais dans la contemplation. Jamais. C'est quelque chose qui empêche absolument. Ah, oh, c'est déjà vu. Oh oui, oh, je sais ça. Vous savez, c'est l'attitude de celui qui dit oh oui, oh, je connais ça. Alors à ce moment-là, comment voulez-vous ? Dieu ne peut plus agir. Parce que Dieu, quand il agit directement, il agit comme Dieu et veut que nous soyons, nous, dans cet état de réceptivité de celui qui reçoit tout de lui, puisqu'il est le Créateur. Et donc, on soit dans cet état de réceptivité de celui qui reconnaît que c'est admirable l'action de Dieu. Et le Magnificat, qui maintient en nous cette attitude d'admiration. C'est Marie qui nous éduque par le Magnificat et qui nous éduque dans ce point de vue de l'admiration. Reconnaître que c'est admirable ce que Dieu fait. Quand vous murmurez, vous êtes blasé. C'est le signe d'être blasé. Alors vous murmurez. Et Dieu rééduque son peuple en lui apprenant l'admiration. C'est admirable d'être conduit par Dieu parce que tous les matins, la manne nous est donnée. C'est ça qui est étonnant. Et c'est vrai, c'est admirable d'être conduit par Dieu. Parce que tous les jours, la manne nous est donnée. Alors, si vous ne vivez plus de cette manne, vous n'aurez plus en vous cette capacité d'admiration. Vous serez blasé et vous commencerez à murmurer. Et en murmurant, vous vous mettez vous-même en dehors de la communauté religieuse. Vous voyez comme c'est important ce premier moment de l'éducation, de la rééducation de Dieu. Parce que c'est une rééducation. C'est pour ça qu'il les mène au désert. Ils ont perdu le sens de l'adoration. Ils ne savent plus ce que c'est que l'adoration. Ils sont uniquement des personnes humaines qui sont devenues des robots du Pharaon. Des esclaves du Pharaon, mais pas du tout des esclaves dans le sens, on le disait tout à l'heure, des esclaves dans le sens d'outils, d'ordre de l'efficacité, construire des pyramides pour le Pharaon. Alors ils ont perdu tout le sens du sacré. Parce qu'il n'y a rien de tel pour perdre le sens du sacré que d'oublier l'adoration et de ne plus réaliser qu'une œuvre et de ne plus sensibiliser qu'à ça. Alors Dieu les rééduque. Il veut leur redonner le sens de l'adoration. Et pour leur redonner le sens de l'adoration, c'est la manne. L'adoration, recevoir la manne, ce n'est pas adorer, c'est recevoir un bienfait de Dieu. Mais c'est recevoir un bienfait de Dieu tel qu'il nous mette dans un état d'étonnement. Et si on reçoit un bienfait de Dieu dans un état d'étonnement, à ce moment-là, on est capable de nouveau d'adorer et ensuite de contempler. Entrons dans le chapitre 17. Vous voyez bien ce qui se termine, le chapitre 16. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée en pays. Habités. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Le homer est une dixième des fins. Ça, c'est excellent. C'est renseignement technique. Évidemment, ça avait le plaisir des exégètes. Hein. Parce que c'est quelque chose de surajouté. Et c'est aussi très bien, parce que savoir ce que c'est une mesure. Vous voyez donc, pendant 40 ans, toute une génération, toute la communauté des fils d'Israël, partie du désert de Sin, pour ces étapes sur l'ordre de Yahvé. Donc, c'est bien Yahvé qui éduque, qui commande. Ils campèrent à Rephidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple chercha querelle à Moïse. C'est pas suffisant la manne. Hein, oui, chercher querelle à Moïse. Donc le murmure va recommencer. Assez tenace, vous savez, le murmure. C'est très tenace. Il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau que nous buvions. C'est bien évident, si on donne de l'eau, c'est pour boire. Moïse leur dit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Moïse va tout de suite, hein, tout de suite. Mais c'est très joli, ça, c'est... Oui. Donnez-nous de l'eau que nous buvions, c'est tout de suite la finalité. Moïse leur dit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous, Yahvé? Chercher querelle à l'instrument de Dieu, c'est tenter Yahvé. Ah, c'est très très fort aussi. Hein. Parce que ce n'est plus avoir confiance dans l'envoyé de Dieu. Alors à ce moment-là, c'est tenter d'y aller. Donc c'est ne plus avoir confiance avec Yahvé. Là, le peuple eut soif. Eut soif d'eau. Et le peuple murmura contre Moïse. Bien évident que si on cherche querelle, immédiatement le murmure vient. Là, le peuple eut soif. Eut soif d'eau. Et le peuple murmura contre Moïse. Bien évident que si on cherche querelle, immédiatement le murmure vient. Il dit, pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte pour me faire mourir de soif? Ainsi que mes fils et mes troupeaux. Donc, manque de confiance, on cherche querelle, on murmure. Moïse cria vers Yahvé en disant, « Que ferai-je pour ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Yahvé dit à Moïse, « Passe en avant du peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. » Vous voyez, c'est Yahvé qui donne une tactique quand vous êtes en face du murmure. Hein. C'est très joli, du reste. La manière, l'ordre de Dieu pour rétablir l'ordre. Hein, et pour supprimer le point de vue de ce murmure. Parce que c'est contagieux, le murmure. Hein. Ça, c'est, faut jamais l'oublier. C'est contagieux. Passe en avant du peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends à la main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Voici que moi, je me tiendrai devant toi, là, sur le rocher, à l'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. On appela l'endroit du nom de Massa ou Meriba à cause de la querelle des fils d'Israël et parce qu'ils avaient tenté Yahvé en disant « Yahvé, est-il au milieu de nous ou non ?» Dès qu'on ne voit plus les effets d'une façon tangible, on pense que Dieu est absent. Dieu peut être présent sans agir, d'une manière extraordinaire. Il agit toujours, hein, puisqu'il nous donne l'être, qu'il nous donne la vie, qu'il nous donne l'intelligence et la capacité d'aimer. Mais il n'agit pas toujours au-delà des lois naturelles. Agir au-delà des lois naturelles, c'est charismatique. C'est un miracle. Or, Dieu n'agit pas toujours en miracle. Il aime de se cacher. Il est un Dieu caché. Alors, il se cache à travers ce mode naturel des choses. Donc, on appelle à cet endroit Meriba, Massa, parce qu'il y avait une... Vint Ameleu. Vint Amalek et il combattit contre Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors demain combattre Amalek. Moi je me tiendrai debout au sommet de la colline avec le bâton de Dieu dans ma main. Josué agit selon ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lors donc que Moïse levait ses mains, Israël avait le dessus. Et lorsqu'il les reposait, Amalek avait le dessous. Amalek avait le dessus. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus. Cependant qu'Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défit Amalek et son peuple avec le tranchant du glaive. Yahvé dit à Moïse, « Écris cela en mémorial dans un livre et mets dans les oreilles de Josué que j'effacerai complètement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel qu'il appela du nom de Yahvé Nessi. Il dit, « Puisqu'une main s'est levée contre le trône de Yahvé, guerre de Yahvé contre Amalek, de génération en génération. » Donc, il faut bien comprendre cet épisode si important, mais aussi, vous voyez, cette succession d'épisodes d'actions directes de Dieu, c'est ça qu'il faut essayer de tenir. Nous reviendrons sur la question du rocher et de Meriba, parce qu'il y a tout un tas d'histoires à voir autour de Meriba, parce que c'est un psaume que nous récitons tous les jours, il est invitatoire. C'est quand même très important, chaque fois que vous le récitez, de comprendre ce que ça veut dire. Hein. Pas seulement le chanter, mais comprendre ce que ça veut dire. Et de comprendre pourquoi, de fait, ce psaume est là pour nous rappeler quelque chose d'important. Parce que c'est l'épreuve que Dieu fait subir à Moïse. Chacun des patriarches a eu une épreuve, et Moïse a eu la sienne. Dans notre vie, il y a toujours un moment où Dieu nous éprouve. Pas une seule fois, ordinairement plusieurs fois. Parce que nous avons de la peine à comprendre. Mais Dieu nous éprouve. Et c'est important de savoir pourquoi Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve comme un père châtie. Pour qu'on aille plus loin. Autrement, on s'engourdirait. On se refermerait sur soi. On serait satisfait du petit progrès qu'on a fait. Et on ne pourrait plus vivre vraiment de l'exigence de l'Esprit Saint, puisqu'on serait replié sur soi. C'est pour ça qu'il y a des temps d'épreuve. Et des moments d'épreuve qui sont particulièrement difficiles et quelquefois particulièrement longs. 1000 jours pour Dieu, c'est rien. Pour nous, c'est très long. Mais pour Dieu, c'est rien. Alors Dieu nous éprouve le temps qu'il faut pour que nous arrivions à comprendre. Donc il y a l'épreuve de Meriba. Nous y reviendrons, hein, parce que, vous voyez, il y a différents récits sur l'épreuve de Meriba. Et ça reste toujours difficile à comprendre. Ici, on montre que Meriba, c'est le point de vue du manque de foi et d'espérance. Le peuple d'Israël qui murmure contre Yahvé en s'adressant directement. C'est Dieu qui... Vous voyez, il y a le point de vue. C'est Dieu qui va de fait corriger ce peuple qui s'oppose à lui, qui murmure contre lui. Et donc, contre Moïse. Et Dieu demande une épreuve à Moïse. Alors, on peut comprendre l'épreuve de deux façons. On peut la comprendre du côté du peuple qui murmure. On appela l'endroit du nom de Massa et Meriba à cause de la querelle des fils d'Israël. Et parce qu'ils avaient tenté, ils avaient tenté parce qu'ils murmuraient. Et alors, ils s'étaient posés cette question, est-ce que Yahvé est au milieu de nous? où on peut considérer aussi, Mériba, l'épreuve que Moïse subit. Et Moïse n'a pas répondu adéquatement à ce que Dieu avait demandé. Oui, alors l'incrédulité de Moïse, ça on le verra. Je le laisse là maintenant. Mais parce qu'il y a les deux. Ici, on voit bien que c'est uniquement le point de vue du peuple. On ne charge pas Moïse. Alors il y a ce second événement en face d'Amalek, les bras tendus de Moïse, symbole de la contemplation. Les autres sont dans l'action et Moïse est sur la montagne, les bras tendus. La pure contemplation, les bras tendus, pour que ceux qui combattent dans la vallée puissent combattre d'une manière efficace et en docilité à l'égard de l'Esprit de Dieu. Mais le rôle de la contemplation, c'est Moïse les bras étendus. Et chaque fois que Moïse, n'ayant plus la force, les bras tombés, immédiatement, Amalek remportait le succès. Ça, c'est très très beau pour voir le lien entre la contemplation pure, les sœurs contemplatives, qui doivent être comme Moïse, les bras étendus. Et vous voyez, il y a les pierres qui viennent aider hein, pour que les bras de Moïse puissent rester étendus. Mais ça, c'est la contemplation. Pour que les apôtres qui luttent dans la vallée puissent lutter divinement. Et chaque fois que la contemplation des sœurs diminue, la vie apostolique des frères n'a plus la même efficacité. Alors, il ne faut pas dire trop ça, vous voyez, pour se décharger. Je ne suis pas arrivé à convertir Amalek. C'est à cause du manque de contemplation des sœurs. Non. Et c'est vrai, si je prends ça un peu matériellement, c'est ça qu'on dira, n'est-ce pas ? Chaque fois que Moïse n'avait plus la force de rester les bras étendus en croix, c'est les bras étendus en croix, immédiatement Amalek reprenait le dessus. Alors évidemment, il s'agit de le comprendre selon la finalité, hein, spirituellement. Et alors spirituellement, c'est très vrai que toute action apostolique repose sur une prière contemplative. Et que si la prière contemplative n'est plus ce qu'elle doit être, immédiatement, l'action apostolique baisse. Mais la contemplation de ceux et de celles qui sont entièrement donnés à la contemplation ne supprime pas l'effort de contemplation des autres. Vous voyez bien. Il faut qu'il y ait une continuité entre les deux. De sorte que s'il n'y a pas de contemplation chez ceux qui sont dans la vallée et qui sont des apôtres, il n'y a pas de continuité entre les deux. Alors à ce moment-là, évidemment, la contemplation des contemplatives pures ne passe pas à travers la vie apostolique des autres. Yahvé dit à Moïse, écris cela en mémorial dans un livre. C'est très rare, hein, c'est la première fois. Il y a le mémorial de la Pâque et il y a le mémorial de Moïse qui met ses bras en croix. C'est assez curieux, le lien entre les deux, qui sont le mémorial, comme pour nous l'Eucharistie est le mémorial. Hein. Écris cela en mémorial dans un livre et mets dans les oreilles de Josué que j'effacerai complètement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel qu'il appela du nom de Yahvé Nessi, qui dit pour qu'une main puisqu'une main s'est levée contre le trône de Yah. Guerre de Yahvé contre Amalek, de génération en génération. Donc, le mémorial, pour indiquer l'importance de ce geste, pour impliquer la continuité de ce geste. Vous voyez, faites allusion exactement à la parole de Pierre par rapport à Jésus, quand il demande à Jean qu'est-ce qu'il va devenir. Si tu veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. Bien, je crois que c'est semblable. C'est l'aspect de la contemplation qui doit demeurer dans l'Église jusqu'au retour du Christ. La grande continuité dans l'Église, c'est la contemplation. C'est ça qui continue dans l'Église jusqu'au retour du Christ. Tout l'aspect apostolique change. Et l'aspect contemplation ne change pas. Alors, si vous avez une vie apostolique qui est enracinée dans la contemplation, le changement se fait en fonction de la contemplation, parce qu'il y a une source. Si l'action apostolique n'est plus liée à la contemplation, vous chercherez uniquement le point de vue de l'adaptation et le point de vue des méthodes. Et vous n'avez plus le souci de rattacher la vie apostolique à la source. Je crois que ça explique, c'est très beau, ça s'explique des quantités de choses dans notre vie. Parce que ça explique comment, lorsque la vie apostolique n'est plus liée à la contemplation, nécessairement, vous êtes dans la relativité pure. Et vous aurez le souci d'adapter et souvent de montrer les oppositions entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant. Tandis que la contemplation implique la continuité. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse. Et on nous rappelle que Moïse était marié, parce qu'on ne s'en aperçoit pas toujours, n'est-ce pas ? On le sait, parce qu'on sait que Moïse a rencontré une des filles, justement, de Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce qu'avait fait Dieu pour Moïse et pour Israël, son peuple. Comment Yahvé avait fait sortir Israël d'Égypte ? Jéthro, beau-père de Moïse, avait pris Sipora, la femme de Moïse, après son renvoi, ainsi que ses deux fils. L'un s'appelait Guershom, car avait-il dit, j'ai été un résident Guer, en pays étranger. L'autre s'appelait Eliezer, car le Dieu de mon père a été mon secours, Ézer. Il m'a délivré du glaive de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, vint donc avec les fils et la femme de celui-ci trouver Moïse au désert où il campait à la montagne de Dieu. On dit à Moïse, voici ton beau-père Jéthro qui vient vers toi ainsi que ta femme et ses deux fils avec elle. Très extraordinaire. Vous vous souvenez, dans l'écriture, dans la fable, quand on voit, ta mère est là, Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Puis après s'être salués mutuellement, ils entrèrent dans la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce qu'avait fait Yahvé à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Tous les tracas qui les avaient atteints en chemin et dont les avait délivrés Yahvé, Jéthro se réjouit de tout le bien qu'avait fait Yahvé à Israël, de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Jéthro dit, béni soit Yahvé qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a tiré le peuple de dessous la main des Égyptiens. Maintenant je sais que Yahvé est plus grand que tous les dieux, car dans l'affaire où ils se sont montrés arrogants contre eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent prendre part au repas avec le beau-père de Moïse devant Dieu. Or, le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se tint près de Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vint, vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais là pour le peuple? Pourquoi sièges-tu seul ?» alors que tout le peuple se tient debout près de toi du matin jusqu'au soir. Hein, le bon sens du beau-père. Hein. Moïse dit à son beau-père, c'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont une affaire, ils viennent vers moi, je prononce entre les parties et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu t'épuiseras certainement, et toi et ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux l'accomplir tout seul. Maintenant, écoute mon appel. » Je vais te conseiller et que Dieu soit avec toi. Toi, sois devant Dieu pour le peuple et tu présenteras toi les affaires à Dieu. Tu les avertiras des décrets et des lois et tu leur feras connaître la voie où ils doivent marcher et la façon dont ils doivent agir. Et toi, tu distingueras d'entre tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes sûrs, ennemis du gain, et tu les établiras sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeront le peuple en tout temps. Toute affaire importante, ils ne la présenteront, ils te la présenteront, mais toute affaire mineure, ils la jugeront eux-mêmes. Allège ainsi ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir et ainsi tout ce peuple ira en paix dans son lieu. Donc, intervention du beau-père pour hiérarchiser. C'est très curieux, ça. C'est pas une intervention directe de Dieu. Moïse est mené par Dieu et Moïse demeure une cause seconde. Et c'est pour ça qu'intervient une cause seconde. L'illuminisme consisterait à dire « J'ai reçu de Dieu un ordre, j'attends que Dieu m'éclaire de nouveau. » Ça, c'est l'illuminisme. Au contraire, la vérité de la conduite de Dieu sur nous, c'est lorsqu'ayant reçu de Dieu une lumière, nous obéissons à Dieu, mais nous sommes attentifs à toutes les causes secondes qui sont autour de nous. Nous ne les supprimons pas. Moïse ne supprime pas le conseil que lui donne son beau-père, même s'il est un beau-père. Et on ne parle pas beaucoup de l'épouse, hein, si vous avez remarqué. Hein. La rencontre avec l'épouse est plutôt froide, hein, parce qu'on n'en parle pas. Moïse écouta l'appel de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Ça, je crois que c'est très important. C'est très très important, parce que c'est au fond ça qu'on voit la différence. Un homme aussi illuminé que Moïse, aussi conduit par Dieu que Moïse, tient compte du conseil de son beau-père. Moïse écouta l'appel de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables d'entre tout Israël et il les plaça à la tête du peuple comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. L'affaire difficile, il la présentait à Moïse. Mais toute affaire mineure, il la jugeait eux-mêmes. Puis Moïse laissa partir son beau-père qui s'en alla dans son pays. La visite du beau-père est uniquement pour ça. Montrer que Moïse est capable d'écouter son beau-père. Et qu'il est capable de tenir compte du conseil de son beau-père, tout en étant illuminé par Dieu. Je crois que ça vaut la peine, ça. Parce que c'est très important. Est-ce que nous sommes attentifs à tous les événements providentiels qui éclairent notre chemin ? Alors, on comprend que Dieu se choisisse des causes secondes quand il s'agit d'ordonner des choses qui peuvent être ordonnées par les causes secondes. Il suffit tout simplement d'avoir un peu de recul, vous savez. Quand on fait toujours la même chose, on croit qu'on est seul à pouvoir la faire. Un peu de recul. Et c'est le beau-père qui donne ce recul et qui permet alors de rétablir.